Vous écoutez, on lit pour vous.
Forcé de faire du camping à l'hôpital afin d'obtenir des soins pour leur fils autiste, un texte d'Hugo Duchesne, paru le 18 juillet 2025 dans le Journal de Montréal. La famille d'un enfant autiste sévère a dû faire du camping pendant 4 jours dans une chambre d'hôpital qu'elle refusait de quitter afin d'obtenir des soins adéquats. C'est complètement fou, mais ça fait des années qu'on crie qu'on a besoin d'aide, laisse tomber Jocelyn Kenville. Son fils Sid, âgé de 11 ans, est autiste non-verbal, avec une déficience intellectuelle. Depuis des mois, ses épisodes de crise s'amplifient et il devient alors violent et incontrôlable, au désarroi des parents. Lors de sa plus récente crise, la semaine dernière, ses parents l'ont conduit à l'hôpital à bout de ressources. Mais cette fois, ils ont refusé de partir à moins que leur fils obtienne enfin une place en centre de réadaptation comportementale. Après s'être d'abord rendu à l'hôpital Sainte-Justine, leur fils a été transféré à l'hôpital Charles-Lemoyne la semaine dernière. Le lendemain, la famille originaire de Salaberry de Valleyfield recevait son congé, mais sans aucune offre de soins pour Sid. L'abandon plutôt que des soins. C'était un calvaire, se souvient Annick Boisvert. Des intervenants leur ont même suggéré de carrément abandonner leur enfant à l'hôpital. Il serait ainsi devenu à la charge de la DPJ et il aurait alors été plus facile de lui trouver une place, leur a-t-on dit. Mais jamais les parents n'ont considéré cette option. M. Kenville explique même avoir dormi sur le sol pour rester au chevet de son fils pendant qu'il prenait en otage la chambre d'hôpital. Finalement, leur fils a pu déménager à l'unité de réadaptation comportementale intensive, URCI, de Longueuil, vendredi dernier. Jocelyn Kenville raconte qu'il n'en pouvait plus de tourner en rond ces dernières années. « On me retournait à la maison en me disant d'appeler le CLSC et au CLSC, on me dit d'aller à l'hôpital. » Je me promenais comme ça, hôpital, CLSC, maison, hôpital, CLSC, maison. Personne ne voulait s'en occuper et nous, on n'est pas équipés pour ça. La famille salue néanmoins le travail et le dévouement du personnel et des médecins de l'hôpital Charles-Lemoyne qui ont multiplié les démarches pour y arriver. Déjà, elle voit une amélioration chez Sid, après quelques jours passés à l'URCI. Pas normal. Ça nous a déchiré le cœur de le placer, mais nous n'étions plus aptes, lance M. Kenville. Sa conjointe ne travaille plus depuis des mois pour s'occuper de leur fils, et lui-même a dû cesser de travailler en construction, refusant de la laisser seule. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de place pour les enfants comme lui au Québec en 2025. Rage le père de famille, épuisé de devoir se battre pour que son fils ait droit à des soins. Il y a quelques mois, la famille avait dû déposer une plainte auprès d'un organisme en santé mentale afin d'être suivie par un pédopsychiatre. Famille abandonnée et système de santé submergé. La Fédération québécoise de l'autisme dénonce que de plus en plus de parents se butent à des portes closes lorsqu'ils cherchent à obtenir de l'aide pour leurs enfants. Ça n'a jamais été mal de même, dénonce la directrice générale de l'organisme, Lily Plourde. Je vois des situations que je n'avais jamais vues avant. Elle estime que des compressions se font sur le dos des parents qui se sentent abandonnés par le système de santé, comme ce fut le cas pour la famille Kenville de Salaberry de Valleyfield. En mai dernier, le journal rapportait que des parents d'enfants handicapés ont vu des heures de soutien à domicile via le programme de chèque emploi service être coupées. La même situation s'observe chez les parents d'enfants autistes, dit la Fédération. Madame Plourde déplore que des familles doivent attendre des années pour obtenir l'aide d'intervenants spécialisés et dénonce le manque d'hébergement pour les familles usées jusqu'à la corde. 260% de plus. Le CIS de la Montérégie Ouest soutient pour sa part que la demande a explosé de 260% depuis 5 ans concernant de l'hébergement pour les jeunes dans toute la Montérégie. Par courriel, on précise que l'hébergement doit être considéré comme une solution de dernier recours pour un enfant et qu'en aucun cas, un praticien social ne va inciter un parent à se désengager ou abandonner son enfant. Le CIS assure néanmoins travailler à offrir des solutions pour soutenir les familles et promet l'ajout de 44 nouvelles places d'hébergement d'ici 2026. C'était forcés de faire du camping à l'hôpital afin d'obtenir des soins pour leur fils autiste. Un texte d'Hugo Duchesne, paru le 18 juillet 2025 dans le Journal de Montréal.
Passer près de la mort après un cours de cardio-vélo. Un texte de Baba Tunde Lawani, paru le 12 mai 2025 dans Radio-Canada. Anne Hébert a eu la peur de sa vie quand sa fille de 18 ans a été hospitalisée pour une rhabdomyolyse. Elle veut sensibiliser à cette maladie méconnue, potentiellement mortelle, liée à l'exercice physique trop intense. 2 jours après un cours de cardio-vélo, spinning, de 40 minutes, Jessie Lavoie a eu les jambes enflées. Elle ne pouvait plus marcher. Elle faisait de la fièvre, était prise de panique et son urine avait une couleur marron foncé. À l'hôpital, le diagnostic est confirmé. Jessie Lavoie souffrait de rhabdomyolyse. Ses muscles se décomposaient et libéraient des substances toxiques dans son sang, empoisonnant son organisme. J'ai craint pour la vie de ma fille. Une citation de Anne Hébert. Cette maladie potentiellement mortelle survient lorsqu'un muscle est endommagé par divers facteurs, tels des brûlures, une électrocution, des lésions d'écrasement, une déshydratation sévère, des médicaments ou l'usage de substances psychoactives. Elle peut aussi être causée par un entraînement intense sur de longues durées. Pour Anne Hébert, c'est l'incompréhension. Sa fille est pourtant habituée aux efforts intenses. Ma fille danse depuis l'âge de 5 ans. Elle a déjà passé de longues heures à s'entraîner avec des coachs et chorégraphes. Elle est habituée à l'effort. On n'a jamais su que juste en 40 minutes, ses jambes auraient pu subir des effets aussi graves, raconte la mère. Une maladie connue. Anne Hébert ne veut pas critiquer le sport de cardio-vélo, mais plutôt sensibiliser la population. Cette maladie a touché plus de 1 000 patients en 2024 dans la province, selon le ministère de la Santé, qui précise que l'âge moyen au moment du traitement est de 61,5 ans. Il y a tellement de gens qui me disent qu'ils n'ont aucune idée que ça existe. Nous autres, on n'avait jamais entendu parler de ça avant, précise Anne Hébert. Grant Andrigan, professeur en kinésiologie et en éducation physique à l'Université de Moncton, tient à souligner que la maladie est extrêmement rare. La grande majorité des individus peuvent faire des activités physiques avec un faible risque de développer la rhabdomyolyse, soutient-il. Ce n'est pas typiquement lié à des activités physiques ou de loisirs comme le spinning. Une citation de Grant Andrigan, professeur de kinésiologie à l'Université de Moncton. Comment la prévenir? Grant Andrigan explique qu'il n'y a pas de consigne spécifique pour prévenir la rhabdomyolyse. Mais il suggère de commencer avec des activités de faible intensité pour une pratique d'exercice physique sécuritaire. Il recommande également de les faire sur de courtes durées pour progressivement augmenter l'intensité ou la durée de l'activité. Ainsi, le corps devrait s'habituer et être résistant aux blessures ou à la rhabdomyolyse, dit-il. Jesse Lavoie a finalement eu la vie sauve après avoir été rapidement prise en charge d'abord à l'hôpital Stella Maris de Kent, puis au CHU Dumont à Moncton. « Ma fille va beaucoup mieux, elle marche mieux, mais un peu comme un robot avec des difficultés à plier les genoux. Alors la danse est hors de question pour le moment. Mais ça aurait pu être plus grave », conclut Anne Hébert, soulagée. C'était « Passer près de la mort après un cours de cardio-vélo », un texte de Baba Tunde Lawani, paru le 12 mai 2025 dans Radio-Canada.
« 100 000 logements pour qui ?» Un texte de Dominique Salgado, directeur CAPVICH, Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, paru le 3 septembre 2025 dans Le Soleil. Le maire Bruno Marchand se réjouit des résultats de son administration et rêve désormais de 100 000 nouveaux logements à Québec d'ici 2040. Une ambition louable, certes, mais une question essentielle demeure, et elle reste toujours sans réponse. Ces logements seront-ils accessibles aux personnes en situation de handicap et aux aînés? À Québec comme ailleurs, la réalité est implacable. Des milliers de personnes âgées, de familles et de citoyens en situation de handicap se retrouvent dans l'impossibilité de se loger convenablement. Non pas parce qu'il n'y a pas de logement, mais parce que les logements qui existent ne sont pas conçus pour eux. Vieillissement de la population. Le vieillissement rapide de la population devrait alerter toutes les administrations publiques. Chaque année, la proportion d'aînés augmente et avec elle les besoins en matière d'accessibilité. Or, malgré les grands discours sur l'habitation, malgré les chiffres impressionnants, malgré les slogans mobilisateurs, jamais la question du logement inclusif n'apparaît clairement dans la vision de l'habitation de la ville de Québec. Il faut lire entre les lignes, fouiller à la loupe, pour espérer y trouver une timide mention. C'est inacceptable. À quoi sert-il de viser la lune, comme le dit M. Marchand, si cette lune reste inaccessible à une part entière de la population? Construire sans penser à l'accessibilité universelle, c'est bâtir l'exclusion de demain avec l'argent public d'aujourd'hui. Le logement social est essentiel. L'abordabilité est cruciale. Mais l'accessibilité universelle doit être au cœur de toute politique d'habitation moderne. Sinon, nous répéterons les erreurs du passé en multipliant les immeubles qui devront être adaptés, à grands frais, dans 10 ou 20 ans. Nous appelons le maire de Québec et son administration à prendre un engagement clair et public, fixer des cibles chiffrées et ambitieuses pour la construction de logements accessibles, adaptés et adaptables. C'est la seule façon d'assurer que les aînés et les personnes en situation de handicap ne soient plus laissés pour compte. La crise du logement ne se réglera pas seulement avec des chiffres. Elle se réglera avec une vision inclusive, durable et humaine. C'était « 100 000 logements, pour qui ?» Un texte de Dominique Salgado, directeur CAPVICH, Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, paru le 3 septembre 2025 dans Le Soleil.
Un grand projet de réduction des gaz à effet de serre dans les élevages bovins prend son envol. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 13 août 2025. Dès que Daniel Lajoie met les pieds dans le pâturage, ses vaches se mettent en marche. Les bêtes savent que l'herbe sera plus verte dans la parcelle voisine. Et, de fait, l'éleveur détache le câble électrifié qui sert de clôture, tourne une manivelle et voyage aux bovins vers des horizons plus tendres. La ferme de M. Lajoie, l'élevage du Petit Veau, est établie dans les collines champêtres de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Quand lui et sa conjointe, Isabelle Hudon, ont racheté la terre en 1998, Derrière la maison ancestrale se trouve maintenant une ferme bovine de 100 vaches et 100 veaux, avec tout l'attirail que cela implique. Évidemment, les éleveurs cherchent toujours à optimiser leur exploitation. Ils veulent que leurs veaux grossissent vite et bien et en santé. Certaines pratiques rendent la ferme plus productive et parfois, aussi, moins émettrice de gaz à effet de serre, GES. On sait que le bœuf est la protéine la plus forte en carbone dans nos assiettes, mais quels sont les gestes les plus bénéfiques ? L'élevage, 50 fermes au Québec, 35 éleveurs bovins, 15 éleveurs ovins, qui participent à un projet nommé « Bovins pour le climat », qui vise à répondre à cette question. L'initiative, qui va se déployer sur 3 ans, est le plus grand effort entrepris dans nos campagnes pour caractériser les pratiques agricoles des éleveurs de bovidés et de moutons en matière de carbone. À la clé, on espère trouver la voie vers une viande plus écologique. Il y a plein de choses que les producteurs essaient à leur ferme, mais le résultat concret n'est pas documenté. Page, la coordonnatrice du projet au sein du Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, CDAQ, le gouvernement du Québec octroie 3,5 millions de dollars à ce projet qui s'inscrit dans le cadre de son plan pour une économie 30. Les participants, recrutés à l'automne 2024, ont d'abord eu de l'aide pour réaliser leur bilan carbone. Puis, ils ont choisi un ou plusieurs axes d'intervention. Fumier, pâturage, gestion de troupeaux, où ES est possible. Ils bénéficient maintenant de l'aide de conseillers qui prennent des notes détaillées sur leurs pratiques. Des analyses de sol ou de fumier complètent le portrait. Certains participants testent de nouvelles approches en vue de parvenir à un élevage plus sobre en carbone. D'autres font comme à leur habitude, mais leurs expérimentations personnelles, en étant consignées, contribuent désormais à développer des connaissances qui profiteront à l'ensemble des éleveurs du Québec. Luzerne, trèfle, fumier. Tandis que M. Lajoie dans son champ, des nuées de luzerne exposent leurs jolies fleurs mauves. Les plantes de la famille des légumineuses sont connues pour fixer l'azote dans l'air et le rendre disponible dans le sol. Cela réduit les besoins en engrais de synthèse, donc une réduction de carbone. En outre, les cultures fourragères enfoncent leurs racines touffues dans le sol, ce qui aide à y séquestrer du carbone. Aucun travail du sol ne sera réalisé dans cette prairie pendant au moins une décennie, indique M. Lajoie. Voir du carbone dans le sol, s'exclame le sympathique fermier qui veut renverser la tendance de l'appauvrissement des terres. Plus tard, quand la luzerne sera fatiguée, il dispersera des semences de trèfle dans ce pâturage. Cette technique, qu'on appelle le sursemis, étudiée dans le projet climatique. Chez M. Lajoie comme ailleurs, les conseillers tâcheront de comprendre si ce sursemis en vaut le coup. L'élevage du petit veau participe aussi à l'axe fumier. Dans un coin de la ferme, protégé du vent du fleuve par un boisé, d'hivernage. Les bêtes y passent les mois les plus froids de l'année et naturellement, leurs déjections s'y accumulent. Chaque printemps, on y voit apparaître un immense amas d'excréments, d'urine et de litière. Cet été, l'amoncellement est divisé en deux. À l'air libre, comme on le fait habituellement pour le fumier solide, l'autre est recouvert d'une grande bâche. On va mesurer s'il y a des pertes d'éléments nutritifs en dessous de la toile, explique M. Lajoie, qui épandra ce fumier dans les champs plus tard dans la saison. Dans la digestion des animaux qui génèrent d'importantes quantités de méthane, CH4, est le principal poste d'émission de GES. La gestion des fumiers représente un autre gros morceau du bilan. Ici, on essaie de diminuer les pertes d'azote par volatilisation. Bénéfice économique pour le producteur. Plus il conserve d'azote, moins il va avoir à acheter d'engrais, souligne Pierre-Luc Lisotte, un chercheur indépendant associé au projet, qui élève par ailleurs des moutons à Saint-Mathieu-de-Rioux. De fermiers du soleil, de la pluie et du vent. Cela devrait réduire la volatilisation ammoniacale, ce qui, plus loin dans la chaîne des réactions chimiques, préviendra la création de protoxyde d'azote, N2O, un gaz 300 fois plus puissant que le CO2 pour réchauffer la Sous le puissant soleil du mois d'août, M. Lisotte enfonce une sonde, un tube métallique creux, dans l'amas de fumier pour prélever un échantillon. De tels spécimens sont récoltés 4 fois durant la saison pour être analysés en laboratoire. M. Lisotte se chargera des Souvent, les projets de recherche accaparent les rares temps libres des agriculteurs, souligne l'ingénieur agricole. Là, c'est l'inverse. On travaille pour le producteur. qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois rendre sa ferme plus efficace et réduire sa baisse. Au fil des 3 années du projet, de nombreuses rencontres auront lieu avec chacun des 50 producteurs participants. Certaines en privé, avec les conseillers attitrés et la coordinatrice, d'autres en groupe, pour présenter les conclusions et souligner de manière anonyme. L'agriculture compte pour 1/10 des émissions de GES du Québec. Le gouvernement Legault se donne pour cible de réduire les émissions de méthane des élevages de 6% en 2030 par rapport à 2017. Il ne sera pas amené ces émissions à zéro, mais les éleveurs peuvent faire des gains importants. Quant aux consommateurs, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, leur recommande d'opter pour une alimentation équilibrée qui comprend des aliments d'origine végétale à base de céréales secondaires, de légumineuses, de fruits et légumes, de noix, de graines et des aliments d'origine animale produits dans des systèmes résilients et durables. Daniel Lajoie et Isabelle Hudon comptent bien tirer leur épingle. Tous deux doivent encore travailler à l'extérieur de la ferme pour joindre les deux bouts, mais l'entreprise qu'ils ont bâtie en 15 ans ne disparaîtra pas à leur retraite. Parmi leurs 4 enfants, aujourd'hui adultes, il y a de la relève. Reste à peaufiner la recette d'un élevage à la mesure des 21e siècle. C'était un grand projet de réduction des GES dans les élevages bovins prend son envol. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 13 août 2025 dans Le Devoir.
Bien s'alimenter, la clé pour vieillir dans le confort de son foyer. Un texte de Myriam Fémiou paru le 16 octobre 2025 sur le site de Radio-Canada. Jusqu'à 70 % des personnes de 65 ans et plus vivant à domicile sont à risque de dénutrition, selon une vaste étude menée dans 3 pays, dont le Canada, en 2020. Au Québec, un aîné sur deux n'atteint pas ses besoins en protéines, un élément pourtant essentiel à la santé. Imaginez un endroit où les aînés vivent plus longtemps à domicile, en meilleure santé et de manière plus autonome. Un tel scénario pourrait non seulement améliorer considérablement leur qualité de vie, mais aussi générer des économies substantielles au système de santé. C'est le souhait de plusieurs experts qui se sont lancés dans un projet pilote afin de lever un des principaux obstacles à sa réalisation, la dénutrition, un problème majeur chez les aînés vivant à domicile. Le projet, nommé Nutriage, a été mis sur pied par la nutritionniste Louise Lambert-Lagacé, appuyée par le docteur Stéphane Lemire, interniste gériatre et président fondateur de la Fondation Âge, avec le soutien de la Direction de la Santé publique du Québec et d'Agropur, fournisseur de lait protéiné. Citation : Les personnes âgées, c'est le groupe d'âge qui a le plus de problèmes nutritionnels. Elles ont besoin de plus de protéines que les personnes de 40 ans. Fin de citation, explique Mme Lambert-Lagacé. En vieillissant, la perte de masse musculaire et une métabolisation moins efficace des protéines rendent leur consommation accrue primordiale. Les conséquences de la dénutrition sont lourdes : risque plus élevé de chute, difficultés de cicatrisation, perte d'autonomie, développement de maladies chroniques, voire institutionnalisation. Le gériatre Stéphane Lemire insiste sur l'approche sociale de sa profession. Citation : Si on a une alerte pour la nutrition, par exemple, il est fort probable qu'on découvre un problème d'autonomie ou de mobilité, parce que l'un et l'autre vont ensemble. Fin de citation. Le projet, mené dans 5 régions du Québec, a donc ciblé plus d'une centaine d'aînés à risque nutritionnel, leur fournissant du lait sans lactose riche en protéines. Consommer 300 ml de ce lait par jour procure 20 g de protéines supplémentaires. Des résultats encourageants et des bénéfices multiples. Un suivi personnalisé a également été mis en place pour quantifier les résultats. Les témoignages des participants sont éloquents. Nicole Pilon, 83 ans, une participante au projet pilote, avait perdu l'appétit après le décès de son conjoint, mais a ressenti un regain rapidement. Citation : J'ai vu une différence dans mon quotidien, Après un mois, je vous jure que j'ai vu une différence. J'avais comme plus de vie, plus d'énergie. » Fin de citation. Citation, c'est peut-être pas juste les 300 millilitres de lait plus riches en protéines, mais peut-être qu'ils ont mieux mangé parce qu'on les encourageait, on les dorlotait un petit peu plus. Fin de citation, fait valoir la nutritionniste Louise Lambert-Lagacé. Tellement qu'une fois la phase 1 du projet pilote terminée, plus de 75% des gens avaient pris du poids. Les participants ont aussi rapporté une plus grande facilité à se lever de leur chaise, plus d'énergie pour leurs activités et même une reprise de leur marche quotidienne. Bien que le maintien des nouvelles habitudes après la fin du suivi représente un défi, le projet a semé, citation, « une idée, un sentiment de mieux-être qui a été ressenti », fin de citation, ajoute la nutritionniste. Au-delà de l'aspect purement nutritionnel, François Régimbal, sociologue à l'Université de Montréal, souligne que la dénutrition n'est pas uniquement liée à la pauvreté. Et ce, même si 50% des personnes âgées vivent avec moins de 26 000 $ par an. La liste des facteurs qui peuvent entraîner une diminution de l'appétit et l'envie de cuisiner est longue. Prise de médicaments liés à des maladies chroniques, réduction de la mobilité et de la dextérité, problèmes de déglutition, accès limité à des aliments de qualité, mais aussi l'isolement social, souvent amplifié par le passage à la retraite. Le spécialiste ajoute que les aspects relationnels peuvent avoir un impact significatif sur la consommation d'aliments. En meilleure santé et des économies substantielles. Les résultats du projet pilote Nutriage suggèrent qu'une approche combinant soutien nutritionnel et social pourrait non seulement améliorer significativement la qualité de vie des personnes âgées, mais aussi générer des économies substantielles. Louise Lambert-Lagacé cite l'exemple du Danemark, qui n'a pas construit de CHSLD depuis 1987, grâce à un dépistage annuel et une prise en charge précoce des aînés. Citation. À l'heure où 50% des coûts du système de santé sont dirigés vers les 65 ans et plus, alors qu'on représente 20% de la population. Fin de citation, souligne la nutritionniste de 84 ans, toujours en fonction. Une approche préventive pourrait bien dessiner les contours d'un avenir où les aînés demeurent plus longtemps autonomes à domicile, allégeant ainsi la pression sur les infrastructures de soins et les finances publiques. C'était Bien s'alimenter, la clé pour vieillir dans le confort de son foyer, un texte de Myriam Femiou, paru le 16 octobre 2025 sur le site de Radio-Canada.